Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de Dissolution pour l'année 2025.
Et quelle année, mes amis ! Entre la nomination de Bayrou, la commission d'enquête sur Betaram, le butin des 200 milliards d'euros donnés aux entreprises, le 10 septembre, Le Cornu, la démission de Le Cornu, la renomination de Le Cornu, il s'en est passé des choses, hein ? Alors, finir l'année, on va le faire en beauté.
Oh, s'il te plaît, allez, le budget, j'ai trop envie de savoir si Lacoste a eu son autorisation d'emprunt relevé. Allez !
Alors, si on parle du budget et de ses perspectives, on va faire vite. Ça ne sera plus un zoom parlementaire, mais un flash.
Parce qu'on va ensuite s'atteler à un programme autrement plus réjouissant. Le livre de Nicolas Sarkozy. Car comment dire... pépite.
Je suis incapable d'éprouver une haine durable à l'endroit de quiconque. Je ne garde rancune à personne.
On n'en dit pas plus, ce serait gâcher la surprise.
Avant ça, on fera un tour du côté des Macron pour suivre l'affaire Salcone et les déboires de Bardella à la télé, avant de finir sur le nouvel octogone parisien, le Conseil de Paris.
Qu'est-ce qui avait bien pu me faire tomber du mauvais côté de l'histoire ?
Oh, pas de précipitation, ça se déguste !
C'est rempli de petites pépites savoureuses qu'on a méticuleusement sélectionnées.
Alors, bon épisode de Dissolution.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Au grand dam de la France insoumise, le PLFSS a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le mardi 16 décembre 2025 avec deux voix de plus que la semaine d'avant.
Je crois que les socialistes, le message est extrêmement clair. Ils ont décidé d'un changement d'alliance et le vote aujourd'hui confirme le changement d'alliance, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de s'allier avec la Macronie.
Et oui, la pilule passe d'autant moins à gauche que les positions adoptées dans le PLFSS ne sont pas vraiment compatibles avec un certain engagement signé pendant une certaine campagne.
Dans le programme sur lequel nous avons toutes et tous été élus, c'est-à-dire le programme du Nouveau Front Populaire, ce programme commençait par dire que le Nouveau Front Populaire unissait des femmes et des hommes qui voulaient rompre avec la politique macroniste et proposer une alternative au pays. Désormais, les socialistes ont fait un autre choix, qu'ils l'assument y compris devant celles et ceux qui les ont fait élire.
Ah oui, c'est vrai que c'est gênant, surtout que le PLFSS, certes, c'est important, mais c'est pas comme le budget de l'État, ce sont que des objectifs de dépenses. C'est pas aussi grave si on n'a pas tout de suite.
J'ai cru comprendre que dans les arguments utilisés par ceux, notamment, qui étaient abstenus, on reprend certains des arguments du gouvernement sur les conséquences du fait qu'on ne vote pas le PLFSS, dont j'avais parlé en séance, c'est-à-dire que le gouvernement, dans une note interne de Bercy, avait expliqué qu'il appliquerait finalement à ce qui remplacerait le PLFSS les mêmes règles que la loi spéciale pour le budget de l'État. Par exemple, le fait de scinder toutes les dépenses en matière de santé sous les 12e, ou par exemple, le fait que certaines dépenses ne pourraient pas avoir lieu.
Ah oui, d'accord, mais c'est-à-dire, il y a quand même des textes, non ?
Je rappelle que tout ça n'a aucun fondement juridique, n'a aucun fondement de texte, et que au PLFSS, on n'applique pas les conséquences de la loi spéciale. Et donc, à partir de là, si le PLFSS n'est pas voté, ce n'est pas vrai. Alors, les cartes vitales continueront à fonctionner, ça on a compris depuis un an, mais de manière globale, les dépenses qui devront avoir lieu se feront, parce que le PLFSS, ce sont des objectifs et non pas... j'allais dire, des dépenses effectives décidées.
Pas de pression donc à voter le PLFSS, sauf pour faire de la mise en scène politique. Vous voyez comment on est responsable, on est la gauche de l'ordre et de gouvernement.
Eh bien, je crois que ce soir, nous pouvons dire que nous avons fait œuvre utile. Certains font feu sur les socialistes. Eh bien, je dois vous dire que ça ne nous impressionne pas. Nous n'avons jamais perdu de vue ni les raisons de nous battre, mettre de la justice dans ce budget, faire reculer les brutalités qu'il contenait, effacer le musée des horreurs qu'avec nous, les organisations syndicales avaient dénoncé. Je crois que, sans que ce soit notre budget, nous y sommes parvenus.
Mais parvenus à quoi ? Parce que la seule chose qui s'est passée, c'est quand même que le projet de loi a été légitimé par le vote de députés que l'espace médiatique classe à gauche. Grâce à ça, la droite a pu endosser le beau rôle et dénoncer un budget sous l'emprise des socialistes, alors que bon, c'est du macronisme pur jus. Hein. Et le budget de l'État s'annonce encore pire.
Je rappelle quand même quel est le texte qui va nous revenir. Alors, il a été encore aggravé par le Sénat.
Quelle surprise !
Globalement, c'est un texte qui instaure des politiques de coupes budgétaires sans précédent dans la plupart des ministères, c'est-à-dire que les sommes qui sont prévues pour augmenter le budget de la défense à presque 7 milliards et puis un peu quelques centaines de millions d'euros pour la sécurité et la justice sont prises sur tous les autres ministères, à commencer par l'écologie, le travail, la culture, le sport, l'aide au développement, enfin je ne vais pas les énumérer, donc c'est des coupes budgétaires absolument dramatiques.
Mais alors, ça se dirige vers quoi cette horreur antisociale, qu'on sache un peu comment ça va se passer ?
Ce budget est insupportable, et c'est la raison, parce qu'il est insupportable, que je peux dire sans trop me tromper qu'il sera battu, que ce sera une défaite pour le gouvernement lorsqu'il va arriver à l'Assemblée la semaine prochaine.
Ah, bon, d'accord. Et alors, c'est quoi les options ?
S'il y a défaite, on le sait maintenant de manière quasi certaine, il y a loi spéciale. Ça a encore été confirmé à la conférence des présidents ce matin où la seule discussion, c'était la date.
Ouais, mais l'an dernier, c'était pareil, loi spéciale machin, et puis on a souffert pendant des mois pour finir en plus par avoir un budget 100% Bayrou-Macron.
Et là, j'en profite pour faire un appel au gouvernement et puis à tous ses partisans. Qu'il ne fasse pas la pression qu'il a fait l'an dernier, c'est-à-dire d'utiliser la loi spéciale pour, j'allais dire, contraindre au début 2026 au fait que l'Assemblée finisse par voter un texte ou éventuellement ne censure pas 49.3 s'il était proposé, et donc rendre cette loi spéciale encore plus difficile à vivre pour les Français.
Ah mais ils avaient fait exprès ces crapules !
La loi spéciale, il faut le savoir, n'a pas de règles en matière de dépenses. Ce qui est inscrit dans les textes, c'est qu'on peut dépenser ce qui est important, fondamental pour l'État. Donc il n'y a pas de règles précises. Et l'an dernier, le gouvernement avait choisi d'avoir la vision la plus drastique possible de la loi spéciale pour faire pression en disant on ne va pas payer les associations, on ne va pas payer les emplois aidés, etc. Voilà. Donc je demande au gouvernement aujourd'hui de ne pas s'engager dans cette voie qui serait effectivement non seulement problématique pour les Français, mais problématique aussi pour l'économie.
Mais oui, il n'y a pas de raison, zéro raison, pas une seule pour que le gouvernement Le Cornu reproduise exactement la même stratégie qui a très bien marché l'an dernier. Zéro raison.
This is fine.
La situation financière du pays est inquiétante. Les macronistes, désormais pleinement soutenus par le PS, continuent à appliquer les mêmes recettes néolibérales qui n'ont fait qu'aggraver la dette et les inégalités. Et en parlant de situation désespérée ou désespérante, rubrique suivante.
On parle souvent de trumpisation de la politique française, de l'imitation de son style, de ses coups de com' un peu foireux.
I like it all. I like it. I like every ounce of it, everything. But I do like the French fries where I'll be working.
Eh ben, figurez-vous qu'il y en a un bien de chez nous, là. Un qui sent le maroilles qui s'est dit qu'il allait faire pareil. Oh là 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 là, le cringe de l'espace avec la musique et tout. L'imitation est crasse. La scène de liesse populaire devant le bon seigneur qui bénit de sa présence, c'est la gênance absolue. Et puis faire la pub pour Burger King, c'est SoMars 2025.
Burger King.
Oh non, mais stop, stop là, c'est quoi cette histoire ? Oh là là là, non 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 non, mais ça pue trop la loose à des kilomètres là. Par pitié, on enchaîne, parce que là, c'est trop. Et puisqu'on parle d'imitation ratée de Trump, Jordan Bardella a eu une séquence médiatique un peu remuée sur le plateau de Quelle Époque le 13 décembre 2025.
La petite phrase de Nicolas Sarkozy dans Le Point, disant en parlant de Jordan Bardella, quand j'ai rencontré Jordan Bardella, il m'a fait un peu penser au RPR autant de Chirac.
Moi, il me fait pas du tout penser au RPR autant Chirac, pas du tout. C'est pas du tout le même genre de personne. C'est pas une critique d'ailleurs contre lui, mais pas du tout.
Et bim, un premier tacle. En fait, c'est un moment de l'émission où Salamé montre une photo de quelqu'un et demande à son invité de lui dire un truc.
Nicolas Sarkozy.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
C'est particulièrement abruti comme concept, hein, parce que bon, une phrase comme ça au dépourvu, soit ça fait pathétiquement naze, soit ça fait faux poète et c'est encore pire. Mais bon, je crois que Salamé, elle aime bien le cringe. Hein.
Bruno Retailleau.
Naze donc. Et les visages se sont enchaînés jusqu'à ce qu'il tente une pointe d'humour, se rate lamentablement et se fasse ramasser par la tablée pour finir par montrer son petit côté bougon. Ils sont méchants, service public, ouin ouin.
Donald Trump.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ? aussi.
Vous répétez là, hein. Là, là tu manques d'imagination. Elon Musk.
Dans le cirage de pompe, là, ça
fait pas. Il tire les pompes à Donald Trump.
Bah,
oui.
Bah évidemment.
Je vous trouve bien inélégante, Madame Bachelot.
Non.
Non, mais c'est.
Pourquoi est-ce qu'il déteste ? Pourquoi est-ce qu'il nous déteste ?
Ah oui, au secours, en effet. Et ça, ça aurait pu être notre Premier ministre ?
Elon Musk.
Et enfin, le coup de grâce.
Vladimir Poutine.
Où trouve-t-il toute
cette énergie ? Jusqu'où va-t-il aller ?
Mouah ! Mais ce n'est pas le seul à s'être monumentalement raté sur sa com' cette semaine.
Précédemment dans Salcon.
Si il y a des Salcon, on va les foutre dehors.
Tu crois ?
C'est ce que j'ai fait hier, moi.
Pardon ? Mais parle de qui, là, elle ?
Celle que Brigitte Macron traite de Salcon, ce sont ces militantes féministes du collectif Nous Toutes.
Eh bien, Brigitte Macron a fini par réagir à la polémique.
Je suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Ce sont elles. Ce sont elles et à elles seules que je pense.
Vous avez attribué les propos de Salcon vis-à-vis de militantes féministes. C'est des propos qui ont énormément choqué sur les réseaux sociaux et pas que.
Mais ça, je le comprends tout à fait, puisque ça n'était absolument pas destiné à être public.
Ah bon ? Alors si c'est pas destiné à être public, ça va ?
Je suis montée dans la loge d'un ami, parce qu'il avait peur, je pense qu'on l'entend dans les propos. Donc j'étais avec ma fille et il était avec deux amis. Donc c'était à destination de quatre personnes.
Eh ben, quelle éducation, quelle exemplarité ! Et elle en rajoute une couche en plus.
Je n'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui filmait.
Est-ce que vous regrettez d'avoir tenu ces propos ?
Je ne peux pas regretter de parler.
Mais nous, notre problème, ce n'est pas que Brigitte Macron parle, c'est ce qu'elle pense. C'est ça le problème.
Je ne peux pas regretter, je suis effectivement l'épouse du président de la République, mais je suis aussi avant tout moi-même. Et quand je suis dans le privé, effectivement, je peux me lâcher de manière qui n'est absolument pas adéquate.
Ah bah oui, on sait, oui. Emmanuel, si tu nous entends et qu'elle te martyrise, fais-nous un signe. Hein. On est persuadé qu'il y a tout plein d'associations de... Bah non, nous, on va dire juste féministes, mais elles seront prêtes à accueillir ton témoignage. Et oui, la violence conjugale concerne aussi les hommes. Et en plus, hein, le soutien d'une femme comme celle-là, pas sûr que les féministes en veulent vraiment. De votre soutien, en revanche, on en a besoin. Blast est encore en campagne pour se financer et ne pas dépendre des puissances de l'argent. Alors, plutôt que d'offrir le dernier bouquin de Sarko ou celui de Bardella, aidez-nous à survivre et offrez un abonnement à Blast. Oui, on sait, personne dans notre public ne veut acheter le bouquin de Bardella ou de Sarko. C'est tout pourri comme exemple, on sait. Eh ben, raison de plus, on essaye d'arriver au seuil des 35 000 abonnés avant la fin de l'année. On compte sur vous.
Je veux vous dire, Madame la Maire, vous pourriez partir avec du panache. Si votre seule attaque, si vous avez seulement à me reprocher, évidemment, une affaire de nature privée, contrairement à vous...
Et c'est reparti pour un tour. L'octogone des municipales est dressé et ça distribue les bastos dans tous les sens.
Welcome to another edition of
Mardi 16 décembre 2025, les élus de Paris discutaient du budget d'Hidalgo et la discussion a très, très vite dégénéré.
En intégrant vos prédictions pour l'année 2026, en incluant le braquage budgétaire que sont les loyers capitalisés...
Pas mieux que le braquage du Louvre. Hein.
Qui ont empêché...
C'est vrai qu'elle est culottée, la Dati. Elle doute de rien. Ça mouline de l'air vers son turbine géante à la culture depuis des années, mais ça donne des leçons à la terre entière. En plus, elle s'est fait perquisitionner jeudi 18 décembre 2025, dans la journée, à la mairie du 7e, au ministère de la Culture et chez elle, pour corruption et trafic d'influence. Mais bon, ça se la ramène quand même pour faire campagne sans trop de honte.
Vous parliez des agents tout à l'heure. Ils sont en grève systématiquement.
Au Louvre aussi, hein.
Ils sont encore devant l'hôtel de ville. Nous les avons reçus comme nous les recevons à chaque
de grève du Louvre aussi.
Et ça a enchaîné les coups méchants, dans un sens comme dans l'autre.
Les impôts des Parisiens, sous votre
déclarez
mandat,
vos patrimoines et vos bijoux, Madame Dati. Déclarez vos patrimoines et vos bijoux.
Plus de 80% de toutes les recettes de la ville. C'est de l'argent public, de l'argent des Parisiens.
C'est pas de l'argent de la corruption,
c'est de l'argent,
ça c'est sûr.
De la collectivité dont vous vous servez pour vos dépenses personnelles, pour lesquelles, évidemment, vous devrez rendre compte.
Ah ouais, c'est rigolo, dites donc, ce fight entre femmes qui dépensent des dizaines de milliers d'euros de trucs qu'aucun Français ne comprend très bien.
Madame la rendrez compte au tribunal le 16 septembre 2026.
Comme votre... Madame la maire, comme
madame... Tribunal, le 16 septembre 2026, pour fait de corruption.
Ah oui. Je n'ai jamais utilisé d'argent public, contrairement à vous.
Mais de l'argent
vous
privé, oui. De l'argent privé, oui. De l'argent privé, oui.
Et bim, tes notes de frais. Et bam, tes bijoux. Et bim, ton enquête. Et bam, ton jugement. Bon, ça fait pas avancer le schmilblick, hein, mais au moins, ça peut faire marrer. Et c'est leur cas, visiblement.
Ah oui.
Quelle ambiance.
Vous savez, Grégoire, je me soucie beaucoup Madame plus de votre mère, avenir que du mien.
Madame
en tous les cas,
mère.
Souciez-vous de votre avenir plus que Madame, du mien. Le Madame, mien, au moins, il n'y a pas
Madame
un
la mère,
procès en vue pour
Madame
corruption.
Madame la mère,
terminez dans l'amertume.
Madame la mère, cessez d'être dans la haine et dans l'amertume. On se détend.
On se demande bien qui est la plus amère des deux, hein, Madame la mère ou la mère d'Ati. Peut-être future Madame la mère aussi. Et en parlant de haine, d'amertume et de corruption, rubrique suivante.
Alors oui, on avoue, nostra culpa, on a lu tout le bouquin de Sarkozy. Et comme prévu, bah, il y avait des belles perles. Et ça a commencé direct, dès le début, avec l'avertissement.
Par souci du respect de la vérité et de la crédibilité de mon propos, j'ai choisi de ne modifier aucun des noms des protagonistes de ce récit. Chacun pourra donc s'y reconnaître et ainsi assumer sa juste part de responsabilité dans ce qui restera, à n'en pas douter, une douloureuse épreuve judiciaire.
Par souci du respect de la vérité venant de Sarkozy, c'est quand même pépite, hein ?
Qu'est-ce qui avait bien pu me faire tomber du mauvais côté de l'histoire ? Qu'avais-je fait pour mériter un tel traitement ? Quel crime avais-je bien pu commettre ? Je dois reconnaître aujourd'hui la profondeur de ma naïveté. Jamais je n'aurais envisagé qu'avoir été porté au sommet de l'État pouvait constituer une telle menace pour ma famille et pour moi-même.
Mais oui ! Quel crime ? Comment ? De qui ? De quoi ? Pourquoi ? On se le demande !
Pourquoi ai-je vécu tant de situations si extrêmes ? Je m'apprêtais à recevoir mon numéro d'écrou. Le 320 535, c'est ainsi que j'allais désormais être identifié. 4 jours auparavant, j'étais Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, reçu par le président Emmanuel Macron en personne au palais de l'Élysée. A-t-on jamais imaginé un contraste plus saisissant ?
C'est vrai que c'est assez saisissant, hein, mais peut-être qu'un président reconnu coupable d'association de malfaiteurs, ça passe devant, non ?
Et moins on trouve de preuves, plus on s'obstine, allant jusqu'à me jeter en prison. Dois-je me taire ? Dois-je baisser la tête ? On ne peut pas me le demander. Et d'ailleurs, je ne le ferai pas parce que ce serait trop grave, trop lourd de conséquences, trop contraire à l'idée même d'état de droit. À la corrida, le moment de la mise à mort est toujours le plus attendu. Il en allait de même ici.
De toute beauté, une martyrologie d'anthologie. Au cas où vous n'aviez pas remarqué, ce n'est pas Sarko, mais Usul. On le remercie pour ses imitations saisissantes. Alors bon, on va pas le faire imiter toutes les citations. Donc bon, on va se faire une petite session cosy, lecture chill.
Bonjour. Je suis Nicolas Sarkozy, j'ai le plaisir de vous lire le journal d'un prisonnier, pour Blast.
Alors, dans le genre bizarre, il y a eu aussi ça.
On ne prête à autrui que les sentiments que l'on éprouve pour soi-même. Ce fut sans doute une erreur de ma part de ne pas l'avoir compris à temps. Je suis un bagarreur.
J'aime me battre.
C'est vrai que parfois, il tenait du personnage de comédie, hein.
Un téléphone était installé dans ma cellule, comme dans celle des autres détenus. Il s'agissait d'un poste fixe. Je devais me tenir debout pour l'utiliser, car il était fixé au mur à hauteur d'homme. Son utilisation n'était guère aisée.
Oh non ! On avait dit pas sur la taille !
C'est un petit bonhomme, haut comme 3 pommes.
Un véritable cauchemar.
Mais le téléphone réservait d'autres secrets à notre détenu d'exception.
Personne n'avait la possibilité de m'appeler. Je pouvais le faire, mais uniquement pour des numéros qui avaient été préalablement enregistrés et agréés par l'administration pénitentiaire. Il convenait ensuite de composer pas moins de 10 chiffres qui constituaient autant de codes nécessaires pour obtenir la ligne permettant enfin d'atteindre le correspondant désiré. Un véritable parcours du combattant.
Oui, un téléphone, quoi, avec des numéros. C'est pas un code, c'est un numéro de téléphone. Si tout se ressemble en combat, c'est peut-être parce que ça fait des années qu'il vit dans le nuage cotonneux du luxe, hein. Pas de privation, pas de frustration et surtout pas de bruit.
La prison est plus sonore la nuit que le jour. Mon voisin de cellule passait une partie de son temps à chanter « Le roi lion » et l'autre à s'acharner avec sa cuillère contre les barreaux de sa cellule, déclenchant un bruit assourdissant. Je lui étais reconnaissant d'avoir arrêté ses activités à cette heure assez avancée de la nuit.
Et en parlant de roi, il a aussi pas mal lâché sur les politiques, et Macron en particulier.
Emmanuel Macron avait suffisamment de contenteurs, d'ennemis déclarés, d'amis déçus pour que je vienne allonger cette liste interminable.
Et hop, au passage, un tacle sur son impopularité et la déloyauté de ce soutien.
Depuis sa funeste décision de dissoudre l'Assemblée nationale en 2024, nos relations s'étaient distendues. Je n'avais pas compris et encore moins accepté ce que j'avais considéré comme un caprice qui faisait autant de mal à la France qu'à son auteur.
Oh, si même la droite réac se met à le dire, c'est peut-être que Jupiter a raté le coche, hein. Et visiblement, il n'a pas semblé être très convaincu par le macronisme.
La question n'est pas simplement de rassembler son camp ou son parti, elle est de rassembler la France dans sa multitude, sans affadir ses propres convictions et sans faire le « en même temps » qui ne fonctionne pas, comme on le constate malheureusement aujourd'hui.
Il a su, avec la subtilité qui est la sienne, flatter son propre parcours. Surprise !
La méfiance était même installée à la suite du retrait de ma Légion d'honneur. Ce n'était pas tant le fait en lui-même que la manière qui m'avait profondément heurté. J'avais été promu chevalier en 2004 par Jacques Chirac, qui avait alors évoqué au titre de mes mérites supposés l'affaire Human Bomb, dans laquelle les circonstances m'avaient mis en situation de sauver des enfants de maternelle retenus en otage par un détraqué qui voulait faire sauter l'école entière.
Et hop, un peu de pub gratuite, comme il le dit si bien d'ailleurs.
La modestie s'imposait.
Et il n'a pas épargné sa famille politique, comme il le dit si joliment.
Bruno Retailleau m'appela régulièrement, mais n'en fit publiquement pas davantage. Laurent Wauquiez se manifesta aussi, mais ses prises de position publiques furent prudentes, et surtout moins tranchées que celles de Gérard Larcher, qui osa affirmer que l'exécution provisoire posait un problème.
Et le coup de grâce ?
Je n'en veux pas à ceux qui n'ont pas été particulièrement courageux. Chacun fait comme il peut, ou comme il veut. Mais comment espérer être un leader politique si on a peur, et surtout, si on le montre ?
Nous, on aime bien hein, ces petits déchirements entre droitos. Mais bon, c'est pas non plus l'apanage du courage, le Nico.
J'avoue avoir fait preuve d'une certaine couardise.
Oh mais rassurez-vous, il n'a pas gardé ses munitions que pour Macron et les LR, hein.
Cela n'empêcha pas Ségolène Royal d'affirmer sans rire qu'elle avait perdu l'élection de 2007 à cause de l'argent de Kadhafi. Plus c'est gros, plus la passe. Et avec elle, ce n'est jamais assez gros. À son crédit, je dois dire que je ne suis pas certain qu'elle comprenne toujours le sens de ce qu'elle dit. Cela la sauve de la honte. Puisqu'il me fallait porter une croix, je devais tenter de le faire en m'élevant spirituellement.
Eh ben, quelle élévation ! Spirituelle qui plus est ! Et en parlant d'élévation spirituelle, il semblerait que Sarkozy ait tenté de prendre un raccourci direct martyr.
Bonne nouvelle, ma cellule comportait deux fenêtres consolidées. Chacune d'elles était obturée par un double système de barreaux et de grillages. L'évasion n'était guère envisageable, en tout cas pour un prisonnier comme moi. Je pouvais même les ouvrir. Je fis l'erreur de vouloir aérer ma cellule en ouvrant l'une des fenêtres. Mal m'en a pris, un bruit assourdissant m'agressa.
Ah, ah, on m'agresse ! Mais qui va là ?
Y avait-il une bagarre ? S'agissait-il de manifestations qui m'étaient destinées ?
Ce vacarme a duré plusieurs minutes. Elles m'ont paru interminables. L'ambiance était menaçante. Bienvenue en enfer. J'ai vite refermé la fenêtre. Je prendrai l'air plus tard. Ce n'était pas la priorité du moment. L'espace d'un instant, je me suis demandé comment j'allais pouvoir survivre dans cet environnement hostile.
Environnement hostile, c'est pas l'Annapurna non plus, faut se calmer.
Certains de mes nouveaux voisins ne semblaient pas bénéficier d'un équilibre mental optimal.
Pas de Nicolas !
Oh, mais attendez voir, hein. Il sera moins fanfaron par la suite. Hein. Là, il vient d'arriver, il se la pète et tout. Après 3 semaines, il sera maté, le petit délinquant de nuit sur scène.
La cérémonie de la douche après le sport était particulièrement cocasse. Je n'avais jamais connu une installation plus incommode. Par la crainte sans doute qu'un détenu ne se pende, il n'y avait pas de pommeau, mais seulement un petit filet d'eau qui coulait presque le long du mur. On ne pouvait se mettre au-dessous. Il fallait essayer de se placer à la bonne hauteur, juste en face. Mais ce n'était pas la seule difficulté. Le pire était que le mince filet d'eau s'interrompait très vite, comme une minuterie. Il fallait sans cesse retrouver le bouton et le presser.
L'imaginer se contorsionner en tous les sens sous la douche après le sport...
Disgusting !
Comme il le dit si bien...
Quitte à boire le calice, autant le boire jusqu'à la lie.
Et la lie, il l'a bien bu dans son bouquin. Il a radicalement refusé de changer ne serait-ce que le commencement du début de sa posture.
Mon crime, aujourd'hui, serait-il de ne pas être de gauche ?
Attendez, non, c'est...
À l'origine de toute l'affaire, il y a l'officine Mediapart et ce fameux document dont le tribunal correctionnel de Paris a jugé que le plus probable est qu'il soit un faux. L'objectif était d'abord de me faire perdre l'élection présidentielle de 2012 alors que j'étais en train de faire une remontée spectaculaire. Il fallait à tout prix casser cette dynamique aussi inattendue qu'imprévue.
Mais pas du tout, enfin! On parle d'associations de malfaiteurs, ici. C'est des accusations sérieuses étayées par de nombreux documents, pas une chasse aux sorcières. Mais ça... Il s'en fiche, et il compte bien faire payer ceux qui ont entraîné sa chute.
La vengeance, je l'ai déjà dit, ne m'est pas naturelle. Je n'aime pas ce sentiment. Je n'ai pas envie de me rabaisser avec l'idée de faire du mal à ceux qui m'en ont tant fait, mais je sais qu'il va me falloir reconsidérer une partie de mes convictions.
Il n'est coupable de rien. Tout serait la faute de cette officine politique que serait Mediapart et d'un complot des juges. Et peu importe, il a déjà été condamné définitivement 2 fois dans les affaires Big Malion et Bismuth. Ça, bizarrement, il ne s'en vante pas. Peu importe aussi si le parquet national financier a ouvert une nouvelle enquête et demandé un nouveau procès pour l'affaire dans l'affaire sur le revirement de témoignage de Ziad Takieddine.
Ah non, eh ouais, on reste sur celle-là, hein. On regardera la nouvelle plus tard parce que sinon on va pas s'en sortir.
Alors, malgré cette persécution anti-droite dont il fait les frais, il n'est pas, lui, comme les autres traînes savates. Il reste un partisan de l'ordre et du travail.
Je pris la décision de faire mon lit.
Oh, et ça aussi, quelle péripétie!
Ce qui n'était pas une mince affaire, car celui-ci était fixé au mur par des plaques imposantes. Il fallut renoncer à en faire le tour. Outre sa rigidité, le matelas pesait un poids étonnant. Décidément, nous ne serions pas amis, lui et moi. Les oreillers étaient d'une drôle de matière, peut-être du plastique. Les couvertures n'en avaient que le nom. Leur minceur faisait peine à voir. Mais une fois le lit fait convenablement, la cellule prit un aspect plus humain. Il suffit de peu de choses parfois.
Il était tout content d'avoir fait son lit.
L'oisiveté est le pire des travers, spécifiquement lorsque l'on se trouve privé de liberté.
Le travail, la famille, attention, il manque plus que la patrie.
J'ai pu mesurer à cette occasion la profondeur des racines chrétiennes de la France et l'importance des sentiments religieux, y compris chez ceux qui m'écrivaient sans être visiblement des pratiquants réguliers.
Et hop, en direct de CNews Prison pour vos oreilles ébahies. Mais en même temps, le Front Républicain est mort et enterré depuis longtemps avec lui, et il le reconnaît.
Beaucoup des lecteurs actuels de Marine Le Pen et de Jordan Bardella étaient à mes côtés lorsque j'étais dans la politique active. Jamais, lorsque j'étais président de l'UMP, ni le père ni la fille n'ont été présents au second tour de l'élection présidentielle. Insulter les dirigeants du Rassemblement national, c'est insulter leurs électeurs, donc les nôtres, au moins potentiellement.
Oh, bah c'est bien, au moins c'est clair, hein.
J'ai vu, à l'occasion de mon incarcération, la force de ce lien charnel qui me lie avec tant de Français.
Oh, disgusting shit.
Mais à part ces horreurs, ces refus de remise en question, ce bouquin pose de vraies questions sur la prison.
Alors là, ça, non, ça peut pas être vrai, hein.
Alors oui, non, lui ne se pose pas vraiment les questions, il évoque le sujet un peu abstraitement.
Je me fis la promesse d'avoir à ma sortie une parole désormais plus élaborée et moins caricaturale que celle que j'avais pu tenir dans le passé sur tous ces sujets.
Ah mais quand même! Eh ben justement, on va faire un petit peu de subversion et de vrai gauchisme anti-prison à partir du bouquin de Sarkozy. Surveiller et punir, version martyrologique du droitos.
Une véritable oasis.
C'est une ultime trahison de cette mise en scène, autrement assez pathétique. Ce qui est intéressant avec le livre de Sarkozy, c'est que sans en avoir l'air, il évoque l'essentiel des questions qui se posent sur la prison et le système pénal. Ça peut sembler grandiloquent, mais c'est savoir à quoi servent les normes du crime. Comment doit-on définir les déviances sociales? Est-ce que la punition est une bonne option pour y répondre? À quoi est-elle censée servir? Toutes ces questions ont notamment été longuement travaillées par un groupe d'intellectuels dans les années 70, le GIP, groupe d'information sur les prisons, notamment fondé par Michel Foucault et Pierre Vidal-Naquet, et rapidement rejoint par des noms reconnus de la pensée de gauche radicale, comme Hélène Cixous ou Gilles Deleuze. Comme Michel Foucault l'a si bien montré dans son ouvrage « Surveiller et punir », depuis la Révolution française et les Lumières, la peine, c'est-à-dire la punition, l'infliction d'un mal, doit servir à quelque chose, doit poursuivre un bien social collectif. La peine ne saurait être uniquement une forme de vengeance spectaculaire ou de moyen de réaffirmer l'autorité de l'État via l'expiation souffrante de fautes par le corps du condamné. La force de l'analyse de Foucault, c'est de montrer comment, derrière cette façade du bien commun, du progrès de la société, se cachent en réalité des desseins tout aussi primaires et politiques. La peine reste encore une modalité du contrôle social, par définition brutale. Classiquement, la peine reçoit 3 grandes fonctions. Punir, c'est-à-dire rétribuer, infliger un mal pour un mal. Réhabiliter, c'est-à-dire rendre le condamné à même de vivre normalement dans la société, et protéger en mettant de côté les éléments dangereux de la société. Malgré sa cécité réactionnaire et conservatrice, le récit de Nicolas Sarkozy permet, avec grande fidélité, de montrer en quoi les 3 fonctions de la norme pénale sont très largement inefficaces et problématiques, sur le principe et dans le milieu carcéral en particulier. Le premier mythe, très enraciné dans la façon de voir la punition, serait sa vertu rédemptrice, par la souffrance. En infligeant une souffrance au condamné, on en transformerait l'âme.
Je me suis rendu compte que la prison provoquait une fatigue profonde, nerveuse comme physique. Je ne l'avais pas réalisé au début. Je vivais sur les nerfs. J'étais concentré à l'extrême pour tenter de comprendre les règles de vie de mon nouvel environnement.
Cette fatigue, c'est le résultat de l'enfermement, de la solitude. C'est la prison.
En prison, il n'y a rien à voir, rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé, où il y a beaucoup à entendre. Le bruit est hélas constant. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison.
La prison est fabriquée, sciemment et intelligemment, pour la dépression, pour punir le condamné, au moins mentalement, si ce n'est physiquement.
Aucun espace n'exprimait le plus petit espoir ou la moindre humanité. Je fus frappé par l'absence de toute couleur. Le gris dominait tout, dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces. Le premier contact était rude. Il s'agissait davantage d'une cage que d'un lieu de promenade.
Tout cela n'est pas du hasard. Tout est pensé et organisé à cette macabre fin.
Nous traversâmes la cour d'honneur dont la pente était inclinée à dessein. Autrefois, la guillotine y était installée et le dénivelé permettait au sang de s'écouler. La barbarie ne néglige aucun détail.
Cette dépression manufacturée a pour but d'écraser le condamné sous le poids de la culpabilité, d'épuiser ses ressources morales et de lui faire croire à la fin qu'il est coupable, peu importe la réalité des faits.
Au fond, le processus judiciaire est fait, consciemment ou non, pour user, pour affaiblir et pour qu'au bout de cette course d'obstacles, le prévenu se sente coupable.
La punition est déshumanisante. Elle sert à presser le condamné sous les rouages de l'administration pénitentiaire qui reste flegmatique, comme si elle avait affaire à une chose immuable. Ainsi, à propos d'un détenu qui se tapait la tête contre la porte de sa cellule pour aller en visite, Sarkozy narre cette interaction.
Le jeune surveillant me fit cette remarque fataliste. C'est un détenu impatient. Son flegme m'impressionna. Je n'en aurais sans doute pas été capable.
Ce n'est plus quelqu'un épuisé par des années de confinement seul, rendu fou par l'enfermement. C'est un détenu impatient. Loin de se contenter de punir un condamné, la prison, et tout le système pénal avec elle, sert à fabriquer des coupables, à prendre de la chair et des vies humaines pour valider la raison d'être de tout ce système, la culpabilité. Cette logique punitive est extrêmement inefficace à faire prendre au coupable conscience de sa culpabilité. Punir et faire souffrir ne fait que renforcer l'antagonisme. Ça favorise les discours victimaires et martyrologiques, comme le même Sarkozy a su nous le montrer. Ça ne permet donc pas une réhabilitation morale. Mais la prison ne permet pas non plus une réhabilitation sociale. Son fonctionnement est radicalement incompatible avec le mode de vie social normal.
La violence la plus inhumaine était la réalité quotidienne de ce lieu dont on attend, à l'inverse, qu'il prépare à la réinsertion des délinquants. Cela me paraissait assez mal parti dans ces conditions.
Dans la prison, la règle, c'est l'arbitraire. Pas de promenade parce que X, pas de visite parce que Y. Le maton vous a dans le nez, vous prenez du cachot disciplinaire.
C'est d'ailleurs l'un des principaux problèmes avec la prison. Lorsque l'on se retrouve dans un lieu où sont regroupés tant d'assassins, de malfaiteurs et d'escrocs en tout genre, il est assez naturel d'être affecté par l'ambiance générale de culpabilité et par l'image que la prison vous renvoie de vous-même. Si je n'y prenais garde, je pouvais finir par me sentir coupable, rien que par la contamination extérieure.
Comment apprendre à des individus à vivre selon les règles de la société en les plongeant dans une mini-société qui fonctionne exactement à l'envers de la vraie société ? En prison, l'ordre se fait par la terreur de l'agression soudaine et la surveillance constante. Le libre arbitre est oblitéré. Ce qui compte, c'est de se mettre dans les bonnes grâces de ceux qui ont votre vie entre leurs mains. Autre condamné, maton ou magistrat.
Si je ne disais pas que je souffrais de l'enfermement, les juges pourraient penser que je les provoquais et que je n'avais pas pris les choses au sérieux. À l'inverse, si j'en faisais trop, je risquais d'être présenté comme impudique, faible, cherchant à les apitoyer.
La prison est ainsi une machine à fabriquer la récidive. Elle plonge des gens violents dans une société où l'ordre se fait par le rapport de force et la violence. Bref, elle ne réhabilite plus du tout. Cette violence est omniprésente.
La nuit précédente avait été particulièrement agitée. Un détenu s'était blessé à la tête, sans que l'on sache si cela était volontaire ou non. À l'hôpital Cochin, où il fut transporté pour être soigné, le médecin avait demandé que les menottes lui soient retirées. C'est à ce moment que l'homme avait eu la mauvaise idée de tenter de s'enfuir. Une course-poursuite s'était engagée dans les couloirs de l'hôpital. Le détenu avait finalement été rattrapé et ramené à la santé dans un grand état d'agitation. De 4 à 6 heures du matin, le malheureux n'avait cessé de protester, de hurler et de manifester son désespoir et sa colère de la façon la plus bruyante possible. Il devait se trouver au quartier disciplinaire, juste en dessous du mien. Il était difficile de dormir dans ces conditions, tant le bruit était prégnant. De surcroît, ses cris étaient déchirants. C'était assez bouleversant. Cela me conduisit à réfléchir à la misère humaine, à la désespérance profonde, et au sentiment d'abandon que devait ressentir cet homme. J'ai éprouvé une certaine commisération pour lui. J'ignorais tout de ce qu'il avait fait, mais la compassion m'a paru être le sentiment le plus adapté. En tout état de cause, bien davantage que l'énervement d'avoir un voisin voyant.
Sarkozy ne vit cette situation que de très loin, mais elle est courante en prison où les agressions et les violences sont le lot quotidien de bien des détenus.
5 détenus s'étaient acharnés sur un autre, au lieu de se sentir comme des compagnons d'infortune dont l'intérêt aurait été de se serrer les coudes. La nature de l'homme et ses penchants pour la violence et l'agressivité avaient fait que les 5 agresseurs s'étaient ligués contre le 6e.
La prison ne protège personne. Elle ne protège pas la société, elle fabrique des récidivistes. Elle ne protège pas plus le condamné, elle l'enferme dans un lieu encore plus violent. Elle ne protège pas non plus le personnel pénitentiaire, obligé de gérer l'ingérable dans des conditions toujours plus pénibles, difficiles et chrysogènes.
L'étonnant à mes yeux n'était pas que l'affrontement ait eu lieu, mais qu'il n'y en ait pas eu davantage dans une prison dont le taux d'occupation était de 191%. Comment cohabiter paisiblement et durablement avec un inconnu dans un espace aussi exigu qu'une cellule d'à peine 10 mètres carrés?
La prison brouille les lignes. Les matons sont aussi enfermés que les prisonniers. Ils doivent ouvrir, fermer, surveiller, contraindre, punir. C'est une usine à fabriquer des coupables, à démanteler tout espoir de réhabilitation et qui construit des prisons dans les prisons, à travers le corps des condamnés et la tête des surveillants. Le mode de pensée bave partout. La culpabilité des uns devient la justification de punir des autres. La cruauté des autres légitime la résistance des uns. Le cycle de la violence n'en ressort que renforcé par l'organisation carcérale. Alors bon, toutes ces remarques sont extrêmement classiques et font de l'abolitionnisme pénal que soutient par exemple Geoffroy de la Gannerie. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez aller regarder l'entretien mené par Denis. Ce qui est particulièrement gênant, c'est qu'évidemment, de la prison, Nicolas Sarkozy n'en a rien vécu. Il n'a pas subi la surpopulation, les agressions et l'arbitraire des matons. Il a eu un séjour privilégié et très protégé. Sa mise en scène médiatique est d'autant plus pathétique et risible qu'il se prend au sérieux, au point que ses interlocuteurs, eux, ont du mal à en faire de même.
Le courageux est celui qui domine sa lâcheté. J'ai souvent ressenti ça face à des gens malades, en me disant « mais si j'étais dans sa situation ?» Quand j'ai monté les escaliers pour la première fois, les 85 marches pour aller à ma cellule, je ne savais pas. Et enfin, les commentaires, le ricanement, c'est au fond le rire sans le courage, ou les pleurs sans le sentiment. C'est les gens qui sont au bord de la rivière, qui la regardent passer, et qui commentent.
Le rire vire à la nausée quand on sait qu'il n'a mentionné aucune de ces 2 autres condamnations définitives, pour l'affaire Big Malion et l'affaire des écoutes. Mais surtout, il n'a pris aucun recul sur sa propre situation et n'a jamais, pas une seule fois, emprunter ses chaussures de président ou de ministre de l'Intérieur pour lire la situation dans laquelle il était. Il n'a pas cherché à construire une signification sociologique particulière. Il ne voit aucun lien entre sa politique et la situation dans laquelle il s'est retrouvé, entre ses idées et sa réalité. Pas une seule fois s'est-il rendu compte que l'idéologie à laquelle il a souscrit produisait les résultats qu'il a dû vivre. Il s'est contenté de son petit nombril, de sa petite famille et de son petit vécu, en jouant une sérénade de martyrologie répugnante.
Voilà pour cette fois. Passez de bonnes fêtes autant que possible, on n'est pas à l'abri d'un tonton facho ou d'une grand-mère macroniste.
On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette ultime citation inspirante de Nicolas Sarkozy.
À force de subir des injustices, on peut finir par les trouver normales, voire par se sentir gêné d'exiger ce qui, en définitive, n'est que son droit.
Bitch, please.